Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Bertie Bourdon et Mélanie Chalandon, mais aussi Hélène Lefrançois, Margot Leridon, Rosalie Sucre, réalisée par Benjamin Huy et mise en onde ce matin par Clément Daté. Et comme chaque vendredi, on vous propose une table ronde sur un sujet d'actualité internationale avec nos partenaires du monde qu'on retrouve pour cette 10e saison déjà. Bonjour oui, Marc Sémot, 10 ans déjà.
Bonjour, 10 ans déjà.
L'été a été bon ?
Bonjour Florent, oui. Bon. Court mais bon, c'était dense.
Allez, on va parler de la Grande-Bretagne, on va parler du Brexit. Mercredi, le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé la suspension du Parlement durant la deuxième semaine de septembre jusqu'au 14 octobre. Deux semaines avant la date fatidique du Brexit, ce bouleversement du calendrier entériné par la reine a provoqué l'ire des députés de l'opposition qui ont dénoncé une manœuvre antidémocratique. Ils ont empêché les débats à un moment pourtant crucial pour l'avenir du pays, mais aussi d'une frange de la société britannique qui n'a pas hésité à le faire savoir en descendant dans la rue. Alors comment comprendre cette décision? Que cherche le nouveau locataire du 10 Downing Street? Veut-il précipiter une sortie sans accord? Cherche-t-il à faire paniquer aussi peut-être ses partenaires européens pour obtenir de nouvelles concessions? On évoquera toutes ces questions avec nos invités qui viennent d'arriver en studio. Emmanuel Avril, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, professeur de civilisation britannique contemporaine à l'université Sorbonne, Nouvelle Paris 3. Et puis, auteur d'un ouvrage avec Pauline Schnapper qui vient tout juste de paraître cette semaine. Où va le Royaume-Uni pour l'interrogation, le Brexit et après? C'est chez Odile Jacob. Christian Lequen, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous également. Vous êtes vous, professeur à Sciences Po au Centre d'études et de recherche internationales. Avant d'évoquer toutes ces questions et d'essayer de comprendre à quoi joue Bojo, le Premier ministre britannique, place à notre retour d'eux en partenariat avec l'association des prix Albert Londres. La journaliste qu'on reçoit ce matin nous revient d'Italie et de Lampedusa en particulier.
Tout le temps, je les ai suivis de très très près, par les pensées et par le cœur. J'étais toujours avec ceux qui étaient à bord de l'Open Arms. Enfin, ce cauchemar de l'attente en mer est terminé.
Je pense que c'est important de manifester notre solidarité, de leur dire qu'on est de leur côté et surtout pas du côté de ceux qui ont voulu qu'ils passent 19 jours en mer dans des conditions inacceptables.
Bonjour Juliette Garbrandt.
Bonjour.
C'est vous qui avez recueilli ces témoignages d'un fonctionnaire de Lampedusa et aussi d'une simple citoyenne au moment du débarquement de l'Open Arms. Vous étiez donc sur l'île de Lampedusa. Vous êtes aussi allé du côté de Rome. Vous avez visité un centre d'accueil. On en parlera peut-être. Je vous ai pas présenté. Vous êtes journaliste à RFI. Pardonnez-moi. Voilà, je le rappelle. La semaine dernière, donc petit rappel pour les auditeurs, dans la nuit du 20 août, le navire humanitaire de l'ONG espagnole Open Arms accoste dans le port de Lampedusa après un blocage de 19 jours. Il y a une inspection du navire par le procureur d'Agrigente en Sicile. La justice ordonne l'entrée du bateau dans le port et donc finalement met un terme à la politique décidée de l'ancien ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini. Ancien ministre, puisque rappelons-le, il a provoqué la chute de la coalition gouvernementale et que dorénavant, eh bien, il n'y aura peut-être pas d'élection législative, mais en tout cas une nouvelle coalition entre le mouvement 5 étoiles et le parti démocratique. Mais enfin, ça c'est une autre affaire. Quoi qu'il en soit, il se trouve que l'Open Arms, avec l'Open Arms, Matteo Salvini a quand même poussé encore un peu plus loin sa dénonciation des ONG. Il les a qualifiés de complices des passeurs, faisant donc de ce navire un nouveau symbole de ces luttes entre la justice et cette politique anti-migrants menée par l'ancien ministre de l'Intérieur. Ce blocage de l'Open Arms, presque trois semaines, qu'est-ce qui a fait que finalement il s'est arrêté? Quels sont les arguments qui ont été avancés par le procureur d'Agrigente pour mettre fin à ce blocage et pour permettre l'accostage du navire?
Luigi Patronaggio est monté à bord du navire pour constater l'état de la situation sanitaire. Et il est redescendu et très très rapidement il a pris cette décision de le faire évacuer et de le mettre sous séquestre pour ses raisons sanitaires. C'est-à-dire que la situation était devenue complètement intenable. Ce jour-là, plus d'une dizaine de personnes se sont jetées à l'eau et ça faisait déjà des jours qu'il y avait eu des débarquements sanitaires et que les équipes prévenaient qu'elles n'arrivaient plus à contenir la situation. Les gens étaient complètement à bout. Et dans un état psychologique qui menaçait vraiment Il y avait enfin, il parlait de risques de crise psychotique, enfin voilà, de choses assez graves, quoi. Et les gens, en effet, même qui ne savaient pas nager, d'ailleurs, dans les témoignages recueillis après, enfin, ceux que j'ai rencontrés, dont un qui s'est jeté à l'eau, qui disait, on préférait mourir, quoi. On n'en pouvait plus de pas savoir ce qui allait se passer. Donc le procureur prend cette décision, il place le navire sous séquestre, parce que c'était ça la condition pour le faire, pour permettre le débarquement, dans le cadre d'une enquête qu'il a ouverte pour refus d'obtempérer à des décisions judiciaires, etc. Une enquête contre X qui en fait vise vise Matteo Salvini au bout du compte pour son refus d'une précédente décision de justice qui avait permis au navire justement d'approcher des côtes.
On va revenir sur les suites judiciaires, Juliette Garbrandt, mais d'abord sur l'atmosphère au moment du débarquement. Vous êtes sur place à ce moment-là, je crois que quelques heures plus tôt, Giuseppe Conte annonce la fin de la coalition, donc c'est un moment tout à fait particulier. Comment se passe ce débarquement ?
Alors, c'est allé très vite, puisqu'il y a eu l'annonce du procureur, qui était d'ailleurs attendu par l'équipe. Ensuite, on a pensé que les migrants à bord allaient être transférés sur des bateaux militaires, puis conduits au port. Donc, tout le monde attendait d'un côté du port. Finalement, ils ont permis aux navires de rentrer, ce qui était symboliquement évidemment important, de rentrer dans le port et d'accoster. Et ça a été un moment... assez émouvant. Il y avait un blocage évidemment au bout de la rue qui menait au quai. Il y avait un blocage de la police, mais il y avait de l'autre côté donc accès évidemment à la presse, accès des journalistes, il y avait un groupe d'habitants de Lampedusa, de militants, etc. En faveur de l'accueil qui avait pu passer déjà, qui s'était déjà installé. Et puis de l'autre côté de ce cordon policier, il y avait deux groupes. Il y avait un groupe pareil de gens favorables à l'accueil, et puis quelques opposants aussi, avec la sénatrice Angela Maraventola, qui était de la Ligue du Nord, qui était venue aussi protester. Assez minoritaire, je dois dire, en termes de nombre.
Il y a un accord qui a été trouvé pour répartir les migrants qui se trouvaient sur le bateau. Qui va accueillir ces migrants? Où vont-ils aller?
Alors, il y a eu un accord qui avait été annoncé quelques jours avant. Alors, la France, l'Allemagne, la Roumanie, le Portugal, l'Espagne et le Luxembourg. L'accord, il a été annoncé le 15 août. L'Espagne a déjà ramené 15 personnes à bord de son navire militaire, parce qu'à un moment, une des solutions envisagées, c'était que l'Espagne envoie un navire récupérer tous les migrants pour leur permettre de débarquer en Espagne. C'est là qu'on voit que c'est assez... La situation est un peu, frôle parfois l'absurde, puisque finalement ce bateau, il est bel et bien parti, malgré la décision donc de débarquement des gens à Lampedusa. Et donc, finalement, il y a un bâtiment militaire mobilisé pendant plus d'une semaine pour ramener 15 personnes en Espagne. Donc ça, c'est les pays qui se sont mis d'accord pour cette répartition. C'est au moins la troisième ou la quatrième fois de l'été que ça arrive.
Mais après tout, l'Espagne aurait pu envoyer ce bateau beaucoup plus tôt. Pourquoi cette attente de 19 jours? C'est un navire espagnol. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas décidé de faire accoster ce bateau du côté de l'Espagne, à Majorque par exemple, qui est pas si loin que ça?
C'est déjà arrivé, parce qu'on en est au, je crois, j'ai recompté là, je crois qu'on en est au 15e épisode de blocage de navires humanitaires ou d'ailleurs même militaires depuis l'an dernier, depuis juin 2018. Et bien parce que le droit maritime est très clair, enfin il est très simple, c'est tout tourne autour de ça, le bras de fer tourne autour de ça. Quand on fait un sauvetage, on débarque dans le port le plus proche. Voilà, oui, port sûr, le plus proche.
Donc, mais l'ONG aurait pu décider, compte tenu de la situation, d'aller directement sur un port espagnol. Sauf que ce qu'il y a aussi derrière, que vous expliquez dans l'un de vos papiers, c'est que visiblement, il y a aussi un différend assez fort entre le gouvernement espagnol de Pedro Sanchez et l'ONG, justement, à qui appartient ce bateau.
Oui, alors en effet...
C'est ça qu'il faut expliquer aussi, peut-être.
Oui, oui, tout à fait. Puisque l'Espagne... l'Espagne est pas, a accueilli un certain nombre de ces bateaux. Là, en l'occurrence, dans le cas de l'Open Arms, le navire, c'est un peu compliqué, les tenants, les aboutissants juridiques sont très complexes, mais le navire, apparemment, n'avait pas vraiment l'autorisation d'aller faire du sauvetage au large de la Libye. On ne sait pas trop ce que ça veut dire, puisque le sauvetage, là aussi, par définition, une fois qu'on est sur place, on le fait. Donc, est-ce qu'ils n'avaient pas le droit d'aller dans cette zone? Est-ce qu'ils n'avaient pas le droit de prendre des migrants? Ça, c'est pas possible, puisqu'on ne peut pas ne pas porter secours. Enfin, c'est un peu compliqué. Mais en effet, il y a bouille, hein, il y a tension. D'ailleurs, Carmen Calvo, numéro 2 du gouvernement, a dit qu'il fallait que le navire risquait, enfin que l'équipage risquait des poursuites.
Cette ONG, Proactiva Open Arms, vous nous la présentez un peu, par qui est-ce qu'elle a été créée, comment est-ce qu'elle est organisée, qui la finance, on a un peu des éléments là-dessus. C'est Oscar Camps qui l'a créée.
Oscar Camps la dirige et l'a créée, elle est catalane d'origine. Mmh. Je ne veux pas vous donner beaucoup d'éléments sur son financement et son fonctionnement. Il y avait 19 membres d'équipage à bord. Elle a commencé d'abord par intervenir beaucoup. C'est une ONG qui est beaucoup intervenue avec des petits moyens en Grèce au moment avant la fermeture de la Turquie, quand il y a eu toutes ces très très nombreuses traversées, ces nombreux naufrages. Elle a été fondée par, je ne sais plus si c'est Oscar Camps ou un autre de ses cofondateurs qui était entrepreneur, une entreprise de Litry, si je me souviens bien, voilà, entrepreneur catalan.
Sur les suites judiciaires, Juliette Gerbrandt, pour l'Open Arms, il y a donc, vous l'avez dit, une plainte contre X qui a été déposée pour séquestration, même si effectivement, a priori, elle vise Matteo Salvini, c'est quand même une plainte contre X. Ça pourrait être quoi, les suites judiciaires? Est-ce qu'on peut imaginer que Matteo Salvini se retrouve inquiété, tenu comme responsable justement de cette séquestration des migrants, puisqu'il s'agit de ça?
Alors, il y a plusieurs plaintes. Il y en a une pour séquestration, mais c'est pas forcément celle qui peut aboutir le plus. La plainte sur la base de laquelle est intervenu le procureur, c'est une plainte pour refus d'obtempérer à des décisions de justice. Je simplifie un peu le vocabulaire. Et également pour abus de pouvoir, quelque part. Hein, abus d'office, comme on dit. Enfin, on dit en italien, abus de pouvoir. Donc, elle pourrait aboutir, d'autant qu'avec les remaniements politiques, Matteo Salvini est moins protégé. Cela dit, il est toujours en tant que sénateur. C'est ce qui s'était déjà passé il y a un an exactement, après une situation similaire avec un navire militaire italien, la Diciotti, là aussi bloqué assez longuement. Là aussi, le même procureur d'Agrigente avait déposé une plainte, là, pour séquestration. Et en fait, Matteo Salvini a vraiment failli être poursuivi en justice, aller devant la justice, et il y a échappé parce qu'un vote du Sénat était nécessaire pour le permettre, puisqu'il est sénateur. Et au Sénat, il a pu compter sur ses alliés du mouvement 5 étoiles. Il y a eu toute une tractation politique à ce moment-là. On te couvre, mais tu nous donnes ça en échange, etc., etc. Et finalement, donc, il a, à ce moment-là, échappé à la justice. Donc là, oui, il peut y avoir des suites, on ne sait pas.
L'avenir du navire, de l'Open Arms, c'est quoi? Là, il a été raccompagné du côté de la Sicile par un navire militaire, justement. Il va rester immobilisé, a priori?
Il est immobilisé, il est sous séquestre pendant le temps de l'enquête, qui ne le vise donc pas directement. Mais, et ensuite, ça ne devrait pas être très très long a priori, ensuite il va retourner en Espagne, et là par contre, ce sera peut-être plus compliqué.
Alors, on a beaucoup mis l'accent sur ces navires humanitaires qui récupèrent des migrants, qui secourent des migrants en pleine mer, l'Open Arms, on a beaucoup parlé de l'Aquarius, il y a l'Ocean Viking, enfin il y en a un certain nombre. Mais outre ces bateaux humanitaires qui font l'actualité, il y a toujours aussi des bateaux de migrants qui continuent d'arriver sur les côtes, des petites embarcations qui continuent d'arriver. Ça, c'est ce qu'on voit aussi du côté de Lampedusa.
Oui, tout à fait.
Dont on parle beaucoup moins.
Voilà, beaucoup à Lampedusa, parce que Lampedusa, c'est vraiment, c'est 24 heures de navigation depuis la Tunisie. Donc c'est quelque chose qui n'a jamais cessé, ces mouvements de migration. Mais aussi dans le sud de l'Italie, en Sicile, parfois même en Sardaigne, certains bateaux, partis donc de la Tunisie plus proche, arrivent de façon autonome jusqu'aux côtes italiennes. Et les Italiens les appellent les débarquements fantômes. Et alors, à Lampedusa, c'est quotidien. Quasiment, enfin quand la mer le permet bien sûr, en fonction de la météo. Et ce sont principalement des Tunisiens qui viennent pour travailler. Et en effet, on n'en parle pas, et c'est ce que dénonce le maire ce que dénonçait le maire de Lampedusa que j'ai rencontré. C'est-à-dire que il dénonçait cette manipulation politique de Matteo Salvini, qui a vraiment focalisé toute l'attention sur les navires humanitaires et uniquement sur les navires humanitaires et ces sauvetages-là, en se gardant bien de pas et en clamant que les ports étaient fermés. Or, le maire dit, mais je suis désolé, venez voir, là, le port n'est absolument pas fermé, puisque des gens arrivent tout le temps.
On a une idée de leur nombre ?
Alors le maire de Lampedusa, il m'a dit qu'il avait arrêté de compter. Mais si vous voulez, c'est quelques centaines par mois. À peu près, hein, oui, une centaine par mois, enfin voilà, un bateau, ce sont en général de petites embarcations, donc une quinzaine, une vingtaine de personnes.
Et parmi les gens qu'on peut y trouver, Hassan, 17 ans, vous l'avez rencontré, vous le retrouvez je crois sur la place de l'église, il est avec son frère. Hassan, c'est qui? D'où il vient? Qu'est-ce qu'il fait?
Alors Hassan, il est parti avec son frère pour essayer de gagner sa vie, de fuir la misère en fait. Il fuit une situation, les Tunisiens ils décrivent une situation compliquée, une situation... ils viennent du sud, de la Tunisie, une situation de précarité, beaucoup. Sont un peu des exclus du développement, des exclus de la société, des gens qui n'ont pas beaucoup d'éducation, qui n'ont pas beaucoup... Là, en l'occurrence, ce n'est pas tout à fait le cas, puisque eux veulent reprendre leurs études, le grand frère a fait des études. Mais voilà, c'est une immigration principalement économique.
Et qu'est-ce qu'il veut faire? C'est quoi, lui, son objectif? Rester sur place? Aller à Rome? Aller dans un autre pays? Il a un plan, là, de migration, ce jeune Hassan, vous savez?
C'est pas d'une grande clarté, c'est réussir à travailler, s'installer là où on peut travailler. Beaucoup restent en Italie parce que les liens sont assez forts, souvent parlent italien d'ailleurs. C'était pas le cas de Hassan, mais beaucoup parlent italien. Voilà, après certains veulent rejoindre la France, beaucoup, puisqu'ils ont de la famille en France, c'était le cas là, d'Hassan et de son frère. Mais c'est un petit peu en fonction des possibilités. Et tous savent bien que c'est très compliqué d'arriver en France. Maintenant, c'est très très clair que passer la frontière, ce sera très difficile.
Réaction peut-être avec nos invités sur place, Emmanuel Avril, Christian Lequen. Peut-être avec vous, Christian Lequen, parce qu'il se trouve qu'il y a 3 ans, au plus fort de la crise des migrants, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais invité ici même justement pour parler des blocages en Europe, sur la question de la répartition, etc. etc. Peut-être vous en souvenez-vous.
Je m'en souviens bien.
Que vous inspire justement cette situation? On voit que finalement, les choses n'ont pas beaucoup avancé depuis.
Je pense d'abord le fardeau est très lourd pour l'Italie, ça c'est un point quand même important, et quand on dit pour l'Italie, c'est pour les autorités locales aussi. Je crois qu'à Lampedusa, c'est assez remarquable d'ailleurs la solidarité qui s'est mise en place, aussi autour de l'église catholique, oui. Des prêtres locaux. Et ce que ça m'inspire, si vous voulez, dans une réflexion européenne, c'est que dans l'agenda des réformes qui va venir, je pense après le Brexit, ce qui sera notre sujet du jour, il va falloir repenser véritablement une politique migratoire commune avec des règles un peu plus efficaces de façon. Mais bon, là, ce que je dis là peut avoir un peu valeur d'incantation, mais on voit bien les limites. On voit bien les limites, mais il va falloir quand même mettre ça sur la table.
Oui, c'est ce que dit le maire de Lampedusa aussi. Il faut s'asseoir autour d'une table et parler. Non, ça fait quand même des années que...
Et est-ce qu'on peut espérer précisément que le départ de Matteo Salvini permette justement des négociations un peu plus sereines sur ce plan-là, Christian Lequen?
Non, je pense que le fait que la Ligue ne soit pas au gouvernement pour quelque temps, parce qu'elle peut très bien revenir, favorise le dialogue du point de vue italien. Mais je veux dire, le blocage n'est pas qu'italien. Le blocage, on le voit bien, il est partout dans tous les États. Et alors, en Europe centrale, là, c'est carrément un blocage de principe.
Oui, donc la nouvelle coalition gouvernementale ne va pas régler tous les problèmes.
Je ne pense pas.
Merci beaucoup en tout cas à Juliette Garbrandt d'avoir été avec nous, d'être passée dans nos studios ici à Culture Monde. Je rappelle que vous êtes journaliste à RFI. On peut lire un certain nombre de sujets sur le site d'RFI. On va en entendre bientôt. Je crois que vous préparez un long documentaire. Ça sera
le 11 septembre, je crois, un mercredi.
Voilà, donc le 11 septembre. À l'heure, c'est grand reportage, je ne sais plus l'heure.
Reportage, il y a plusieurs diffusions sur RFI et à retrouver sur le site de RFI.fr.
Et bien voilà, c'est dit. Merci beaucoup, Juliette Garbrandt, d'être passée dans nos studios.
Merci à vous.
Allez, on quitte l'Italie, on quitte Lampedusa avec cette musique Lampedusa Andata, Stefano Saletti et Banda Icona, et on prend la direction de la Grande-Bretagne. Coup de force à Westminster, mais à quoi joue Bojo ? C'est notre sujet ce matin.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Puisqu'en milieu de semaine, le nouveau Premier ministre Boris Johnson a annoncé la suspension des sessions parlementaires, un moment pourtant décisif pour le pays qui désormais est à 2 mois d'une sortie de l'Union européenne.
Nous avons besoin d'une nouvelle législation. Nous devons présenter de nouveaux et importants projets de loi. Et c'est pourquoi nous allons avoir un discours de la reine le 14 octobre. Et nous devons aller de l'avant avec un nouveau programme législatif. Les députés auront tout le loisir et le temps de débattre de l'UE, du Brexit et de toutes les autres questions. Beaucoup de temps.
Ouais, beaucoup de temps, largement de quoi faire. Alors, comment comprendre cette décision de Boris Johnson ? Que cherche-t-il ? Empêcher les députés de stopper le Brexit sans accord ? Mettre la pression sur Bruxelles pour obtenir de nouvelles concessions ? Et quelles conséquences ? Voilà les questions sur lesquelles on va se pencher. Christian Le Cannes est notre invité. Emmanuel Avril également, je rappelle. Où va le Royaume-Uni, le Brexit ? Et après, ça vient tout juste de sortir cette semaine chez Odile Jacob. Marc Sémo, notre partenaire du Monde. Comme chaque semaine, on va commencer avec vous, comme on le fait traditionnellement. Alors c'est vrai que avant la démission de Theresa May, on voyait déjà que la dernière ligne droite allait être extrêmement compliquée, pleine de surprises, pleine d'incertitudes, pleine de rebondissements. Avec l'arrivée de Boris Johnson, on est encore monté en pression, on voit que les choses se tendent encore un petit peu, il choisit de mettre la pression sur le Parlement, il provoque la colère à la fois des députés mais aussi d'une partie de la société britannique. On va avoir 2 mois extrêmement mouvementé, extrêmement chaotique.
Oui, 2 mois très mouvementé. Mais alors, d'abord, je crois qu'il faut rappeler un point fondamental. Ce ne sont pas les électeurs britanniques qui ont porté Boris Johnson au pouvoir. Il est Premier ministre à cause du vote de 90 000 adhérents d'un parti Tory, d'un parti conservateur en déroute. Et un sondage YouGov, qui est un des principaux instituts de sondage britannique à chaud, montre qu'à peine 27% des Britanniques approuvent sa décision de suspendre le Parlement. Alors, rien d'étonnant que face à ce qu'ils ressentent comme un outrage constitutionnel, selon les mots du président du Parlement, il y ait cette mobilisation dans la rue, il y ait cette pétition, plus d'un million et quelques de signatures en quelques heures, ça montre l'indignation. Effectivement, Westminster est le symbole de la démocratie. Alors, un référendum, on l'oublie, le référendum sur le Brexit n'était que consultatif. Alors, en même temps, bon, les Britanniques ont exprimé leur point de vue, c'est important, c'est fondamental politiquement, mais la plupart d'entre eux, on peut l'imaginer, n'étaient pas nécessairement pour un Brexit sans accord. Alors, Bojo, comme on l'appelle, veut créer le fait accompli, on part le 31 octobre, c'est évidemment un coup de bluff pour faire peur aux Européens, obtenir des concessions, c'est aussi un pari politique, parce qu'effectivement l'opposition, avec quelques voix venant des Tories, peut arriver à faire passer la motion de défiance. Lui, il a déjà dit, on ira aux urnes, et c'est là qu'on peut imaginer des scénarios un peu baroques. Bon, d'abord, il peut gagner, il a 35% d'opinion favorable, ce qui, dans un système uninominal à un tour comme le système britannique, peut donner une majorité. On peut imaginer, malgré tout, miracle, une majorité anti-Brexit. Et là, les Européens se trouveront dans une situation très baroque, puisque ce vote, selon toute probabilité, aura lieu après le 31 octobre. On ne peut pas bloquer, seuls les Britanniques peuvent renoncer à sortir le 31 octobre. Donc on aura une situation où est-ce que les Européens vont finalement reprendre le Royaume-Uni sans lui demander de refaire toutes les procédures d'adhésion si 2 mois après la sortie du 31 octobre, il y avait une majorité anti-Brexit.
Ouais, le Brexit, selon Marc Sémo, ça c'est une hypothèse, mais il y en a plein d'autres, on va pouvoir... Oui, c'est ça qui est sympathique
c'est la avec plus ce sujet qu'on va pouvoir... Au niveau juridique, c'est quand même la plus marrante.
J'avais pas osé, mais pourquoi pas Marc Sémo ? Emmanuel Avril, d'abord, première chose, il y a un des points sur lesquels on s'interroge depuis mercredi, c'est la question de la légalité. Mm-hmm. Il a le droit de le faire, Boris Johnson ?
Alors,
suspendre
oui,
la session parlementaire ?
Il l'a fait, il avait le droit de le faire. Il a utilisé un mécanisme qui existe, simplement, c'est pas un dispositif qui est utilisé habituellement à ces fins-là. C'est censé simplement être une technicalité pour passer d'une session parlementaire à une autre. Donc normalement, voilà, une suspension de quelques jours est accordée et c'est l'utilisation qu'il en fait qui est anormale. Et c'est pour ça qu'il y a un certain nombre de procédures qui sont en cours. Il y en a 3 en ce moment pour voir si, en effet, il y a lieu de revenir sur cette décision. Elles sont en cours. On n'a pas Il y en a une en Écosse,
une en Irlande du Nord
et une à Londres. Donc c'est quand même intéressant de voir que, c'est pas la première fois. On avait déjà eu la situation où la Haute Cour de Londres avait pris une décision justement pour conforter le pouvoir du Parlement contre l'exécutif. Là, on a une situation où peut-être certaines cours devront se porter garante de la démocratie d'une certaine façon.
On reviendra peut-être sur justement ces suites judiciaires possibles. Christian Le Cannes, une première impression. Là, j'ai interrogé Emmanuel Avril sur la question de la légalité, mais au-delà de la question de la légalité, est-ce qu'il vous semble, parce que ce qu'on dit depuis mercredi, ce que disent un certain nombre de personnes, de députés ou même une partie de la société civile, c'est que c'est parfaitement antidémocratique. Ce coup de force. Et d'un autre côté, si on regarde du côté de Boris Johnson, on peut se dire que ils ont eu quand même pas mal de temps au Parlement pour essayer de régler cette question du Brexit, qu'ils ne l'ont pas fait, que par ailleurs, on ne peut pas revenir sur le fait que, eh bien oui, la majorité a dit qu'il fallait sortir de l'Union européenne et que d'une certaine manière, Boris Johnson est fidèle à la majorité et que voilà un acte parfaitement démocratique. Où est-ce qu'il faut se situer, oui, Christian Lequen?
Effectivement, deux interprétations. Moi, je ne pense pas que ce soit un coup d'État ou que ce soit véritablement antidémocratique. Je pense que c'est plutôt contraire à la culture politique britannique qui est de ne pas court-circuiter le Parlement. Donc c'est plutôt cela que je dirais. Maintenant,
mais si le Parlement empêche la sortie de l'Union européenne, qui est le souhait de la majorité des Britanniques.
On peut dire aussi que le Parlement peut-être n'a qu'à s'en prendre qu'à lui-même, car ça fait quand même 3 ans qu'on lui demande de décider. Alors là, en utilisant tous les canaux de la démocratie parlementaire, on lui a proposé 3 fois à l'époque de Van Hammeij le compromis qui a été réalisé avec les 27, et 3 fois il a été rejeté. Donc ça peut d'ailleurs amener une certaine légitimité à Johnson. C'est parce que je crois qu'un des sentiments quand même des Britanniques, c'est qu'ils en ont assez. Vous voyez, ils sont fatigués de cette histoire du Brexit. We are fed up, comme ils disent en anglais. Et donc, lui, d'une certaine manière, en forçant la démocratie parlementaire, ça c'est incontestable, donne l'impression qu'il veut en sortir, qu'il veut en finir, y compris d'ailleurs en assumant l'hypothèse d'une sortie sans accord.
Marc Sémo et puis Emmanuel Avril.
Alors justement, cette lassitude de l'opinion est évidente. Il y a même un nouveau mot dans le vocabulaire britannique, les Bobs, Bored of Brexit, tous ceux qui en ont assez. Et effectivement, de ce point de vue-là, Boris Johnson traduit quelque chose. Finalement, on agit. Alors, effectivement, on peut aussi se poser des questions sur la constitutionnalité, bien que le mot soit bizarre au Royaume-Uni où il n'y a pas de constitution écrite.
Mais il y a une constitution.
Voilà, il y a des usages.
Écrite, elle n'est pas codifiée.
En termes d'usage, je voudrais juste rappeler quand même que cette suspension du Parlement de 15 jours, alors pas de 5 semaines, a été assez fréquente. Donc on n'est pas non plus dans un coup de force comme on peut avoir l'impression parfois en lisant certains titres.
Ça a rarement été aussi long.
Ça a rarement été aussi long. Ça a rarement été aussi long dans un moment aussi crucial. Mais ce qui explique aussi quand même que le débat reste ouvert. La vraie question, c'est celle de la légitimité. Parce qu'effectivement, il y a eu une majorité qui, en juin 2016, 52% a voté pour le Brexit. Mais le Parlement a été élu après. C'était le Parlement après les élections anticipées qu'avait fait Theresa May. Donc, on peut dire que ce Parlement a déjà une légitimité peut-être un peu plus forte, puisqu'il a été élu après le Brexit. Et donc, les électeurs étaient conscients de ce qui se passait. Ensuite, il y a différentes cours qui ont dit qu'il fallait cet accord du Parlement. C'était un recours qu'avait fait une association pro-européenne, qu'il faut cet avis du Parlement. Donc là, on est quand même dans une situation où c'est quand même fondamental que le Parlement puisse s'exprimer.
Emmanuel Avril.
Moi, je voudrais peut-être tempérer un petit peu cette idée que les Britanniques ont voté pour le Brexit et que donc Boris Johnson a raison de dire qu'il ne fait que...
C'est pas ma position, mais c'est non. Une position. Voilà, non, voilà.
Parce qu'en effet, il y a eu une majorité pour le Brexit, mais on sait bien quel était l'état des débats à l'époque et que ça n'inclut pas du tout l'option d'une sortie sans accord. Et d'autre part, voilà, c'est 17,3 millions qui sont brandis par Boris Johnson et Theresa May avant lui comme étant le peuple. Et donc, ce que je dirais plutôt, c'est qu'on voit une polarisation. Donc oui, il y a une partie de l'opinion qui dit qu'on en finisse, on fera pousser des carottes dans nos jardins, il n'y a pas de problème, on se débrouillera, sortons, mais il y a aussi une autre partie de la population qui est extrêmement mobilisée, hein, celle qui descend dans les rues pour protester, ce qui est quand même pas très habitué dans la culture politique britannique. Donc il y a quand même deux opinions très très tranchées, et ce qu'on voit, c'est ce que fait Boris Johnson en ce moment, c'est attiser de plus en plus les deux camps, avec des risques de tensions de plus en plus marqués, voire de violence.
Christian Lequen.
Oui, je pense qu'il assume totalement le risque de la polarisation, en pensant que politiquement il va capitaliser et qu'il va être celui qui aura osé en quelque sorte. Alors que l'image de Madame May était quand même l'image de quelqu'un d'hésitant, qui ne décidait jamais, qui avait du mal véritable, qui se contredisait, etc. Donc il prend ce risque-là, mais effectivement ça peut mener à une polarisation, et ça peut mener aussi à une polarisation territoriale. Voilà. L'Écosse, ça c'est un point quand même important.
Est-ce que c'est un risque réel, Écosse et Irlande du Nord d'éclatement?
Surtout d'ailleurs si la Cour d'Édimbourg, qui doit rendre son arrêt vendredi au plus tard, dit que la procédure de suspension est anticonstitutionnelle, mais la chef des conservateurs écossaise a démissionné, etc. Donc ça crée un mauvais climat. Et un ami britannique m'écrivait la désintégration qui est pas quelqu'un d'extrême, mais plutôt assez modéré dans ses analyses. La désintégration du Royaume-Uni est sur les rails. C'est un vrai risque pour ce qui est de l'Écosse.
Emmanuel Avril, sur les recours judiciaires peut-être.
Sur les recours judiciaires,
ça peut aboutir à quoi?
Alors là, je suis pas du tout constitutionnaliste, donc je suis pas vraiment en mesure de pouvoir vous répondre. On va avoir des réponses assez rapidement, hein, je pense. Mais bon, il y a ces recours, mais il y a pas que ça qui est à l'œuvre, hein, puisqu'on vient de le dire. Vous avez utilisé le mot de il provoque, oui, littéralement il provoque, c'est-à-dire que ce coup de force, ça c'est peut-être ce qui était nécessaire pour pousser les partis d'opposition à enfin essayer de s'entendre. Donc on a eu par exemple Ken Clark ce matin là, juste avant l'émission, qui disait qu'il envisageait, qui est la figure la plus senior des conservateurs, très anti-Brexit, qui disait qu'il envisagerait de se rallier la possibilité de Jeremy Corbyn comme Premier ministre par intérim, ce qui est vraiment, alors que à un moment on pensait peut-être Ken Clark lui-même pourrait faire cette ligne. Donc la possibilité que les partis d'opposition, il y a beaucoup de tractations en ce moment, hein, se réunir et à s'accorder sur une ligne, elle est devenue beaucoup plus probable. Et donc des choses se montent pour le 3 septembre.
Une hypothèse et je vous passe la parole, Marc Sémo. Hypothèse, les recours judiciaires aboutissent et rapidement, la suspension est annulé et on retourne à Westminster et on se met à dialoguer. Est-ce que le Parlement a la possibilité, est-ce qu'il a suffisamment de temps pour bloquer le scénario d'un no deal?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le gouvernement l'a beaucoup dit, dans la période de suspension, il y a 3 semaines qui sont habituellement consacrées au congrès des partis. Oui. Donc, de toute façon, la Chambre ne siège pas. Donc, il n'y avait pas énormément de temps de toute façon, mais il y en avait quand même plus qu'à l'heure actuelle. Et de toute façon, avant la suspension, on parlait déjà d'une motion de défiance. Donc, ce qui va se passer la semaine prochaine, à mon avis, le scénario à court terme ne change pas. Il est tout à fait probable qu'il y ait une motion de défiance de toute façon.
On va parler de la motion de défiance. Marc Sémo et puis Christian Lequen.
Sur ce point, s'il y a une motion de défiance et qu'on arrive à constituer un gouvernement alternatif, la cause est entendue. Si on n'y arrive pas, on va aux élections, la cause est entendue. Mais scénario intermédiaire, est-ce que le gouvernement pourrait précipiter de lui-même des élections? Je crois qu'il faut une majorité des 2/3.
Non, il peut pas. Boris Johnson ne peut pas convoquer des élections. Il faut que ce soit le Parlement qui le décide. C'est
par une majorité des 2/3.
Il peut le proposer. Mais il faut qu'il y ait 2/3 de la Chambre des communes.
En revanche, après, il peut choisir.
Et est-ce que c'est un scénario? Oui, il choisit la date, mais c'est pas bon. Et est-ce que c'est un scénario possible que le Parlement tente le coup de poker?
Ben oui.
Les deux tiers des parlementaires aujourd'hui pourraient décider d'élections anticipées.
C'est une possibilité, oui. D'ailleurs, certains pensent que c'est un petit peu ce qui est vraiment en jeu dans le coup de force de Johnson, hein, parce que il a une majorité, on le sait. Pratiquement inexistante. Les conservateurs sont en avance dans les sondages. Et donc, comme May, Theresa May en 2017, il peut tout à fait se dire que la période est propice pour se lancer dans une campagne électorale, surtout si des élections étaient programmées juste avant ou juste après la date fatidique, parce que il pourrait dans ce cas-là avoir toute légitimité, justement bénéficier de cette légitimité attachée au résultat du référendum, profiter du fait que l'opposition est divisée et espérer accroître sa majorité. Mais évidemment, c'est un pari extrêmement risqué. Enfin, en tout cas, c'est un coup de poker et tout ça, c'est à haut risque.
Alors, Marc, rapidement, je vous donne la
question terrible justement à Christian. Mais est-ce qu'on peut imaginer que techniquement, à ce moment-là, hein, c'est seulement un pays qui peut décider d'arrêter, de bloquer son retrait. Mais est-ce qu'on peut imaginer que techniquement, comme on sait, j'ai dit, c'est la 4e République, l'Europe bloque les horloges en disant, bah, très bien, si le vote a lieu après le 31 octobre, on attendra un mois, s'il le faut, pour prendre acte ou non de la nouvelle majorité.
À mon avis, c'est le seul scénario qui pourrait amener l'Europe à accepter
un nouveau délai, une nouvelle
extension.
Mais même si les Britanniques ne le demandent pas formellement.
Non, je pense qu'il faut que les Britanniques le demandent. Ça, il faut que les Britanniques le demandent. Sinon, l'Europe ne le proposera pas elle-même.
Mais vous pensez que Emmanuel Macron et Angela Merkel sont disposés à ça? Pour le moment, on n'a pas vraiment l'impression.
C'est le seul cas de figure. S'il y a élection, c'est à mon avis le seul cas de figure.
Et d'autant plus s'il y avait un changement de majorité. Ouais.
Mais je ne pense pas, moi.
Pardon, si Boris Johnson annonce des élections le 1er novembre, c'est-à-dire le lendemain du 31 octobre, pardon, donc avec cette idée, évidemment, que le Brexit, no deal, est acté et qu'on passe à autre chose. Les Européens vont pas lui accepter l'idée de repousser. Enfin, ça n'a pas de sens.
Je sais pas ce qu'ils font.
Faut-il encore que Boris Johnson ait l'envie de négocier, de dialoguer réellement, ouvertement? Et ça, c'est d'ailleurs le chapitre que je voulais ouvrir maintenant avec vous, Christian Lequen. Pendant que Boris Johnson annonçait la suspension du Parlement, il y avait à Bruxelles un rendez-vous avec l'un des conseillers de Boris Johnson et la Task Force. Michel Bernier n'était pas là. Mais de quoi on a parlé? Est-ce qu'il y a des nouvelles propositions qui ont été faites? Est-ce qu'on a le sentiment que réellement, du côté britannique, l'équipe de Boris Johnson est ouverte, encline à faire de réelles propositions? Ou est-ce qu'en fait, on est devant des gens qui veulent aller au Brexit dur et point?
Alors, on pense à Bruxelles de plus en plus que le scénario du Brexit sans accord se profile. Voilà, ça c'est l'état d'esprit, si vous voulez, dans l'équipe des négociateurs.
Et que c'est ce que veulent les Britanniques.
Maintenant, alors, pas forcément. Et les Britanniques sont...
Quand je dis les Britanniques, c'est l'équipe gouvernementale.
C'est-à-dire, actuellement, leur stratégie est la suivante. Ils se préparent complètement au no deal. Ça, voilà, on travaille très sérieusement dans l'entourage de Boris Johnson à cette hypothèse, mais on a quand même toujours espoir qu'il puisse y avoir une sorte de compromis nouveau contre le backstop, parce qu'on veut pas du backstop. Alors, ils ont ce qu'ils appellent les arrangements alternatifs. Il y a eu un rapport qui a été rendu, il a été relativement peu commenté, mais qui a été rendu par deux députés le 18 juillet dernier, qui s'appellent Monsieur Hans et Monsieur Morgan, où ils font des propositions alternatives au backstop.
Alors c'est quoi ces propositions alternatives, s'il vous plaît.
Ce sont des trucs un peu bidons, disons les choses très très franchement, mais ils sont en train de travailler là-dessus et ils l'ont proposé à l'équipe Barnier. Pour l'instant, l'équipe Barnier a répondu que ça ne pouvait pas, répondre aux lignes rouges des 27, qui est l'intégrité du marché intérieur et aussi la stabilité du processus de paix, c'est-à-dire l'accord de Good Friday. Pour l'instant, l'équipe de Bruxelles n'est pas convaincue et donc officiellement, on demande aux Britanniques de préciser et voilà. Mais ce qu'il y a, c'est que personne politiquement ne veut être accusé d'être à l'origine du no deal. Vous voyez ce que je veux dire. Donc tout le monde est du côté des 27, dit on est encore ouvert éventuellement à une solution alternative, etc. Parce que la stratégie de Johnson, politique cette fois-ci, c'est de dire moi j'ai proposé.
J'ai essayé, ils n'ont pas voulu.
Un compromis, et bien sûr les 27 n'en ont pas voulu. Donc désolé. La seule solution, c'est de passer au no deal.
Voilà. Emmanuel Avril, sur ces négociations avec Bruxelles, volonté ou pas de l'équipe de Boris Johnson de faire de nouvelles propositions, d'obtenir pourquoi pas un nouvel accord?
Alors, je ne suis pas présente lors des discussions ni en privé, donc je ne sais pas exactement quelles sont ses intentions, mais ça donne quand même bien l'impression de quelqu'un qui fait mine de négocier, qui c'est-à-dire qu'il aimerait bien qu'il y ait un accord, mais dans ses termes. Voilà. Et donc, ce n'est pas vraiment une posture de négociation honnête et sincère. Donc, ça, on peut dire quand même qu'il manque de sincérité dans les discussions.
Non, à son crédit, on peut dire qu'il essaie de créer un rapport de force, y compris par la terreur. Le problème de Boris Johnson, c'est son espèce de fascination pour... Je crois qu'il était un de ses aïeuls pour Churchill. Le problème, c'est qu'il ne l'est pas.
Enfin, en tout cas, il veut
mais faire. Il espère, justement, il joue un peu des mêmes ressorts, la Grande-Bretagne face à toute seule, face aux autres, et l'idée que, effectivement, au dernier moment, finalement, notamment les Allemands, qui sont un peu là-dedans, le chaînon faible, vont céder sur un certain nombre de choses.
Mais je pense que sa posture vis-à-vis de l'Europe, c'est pas tellement ses partenaires européens qui l'intéressent, c'est l'image qu'il donne auprès des électeurs, et donc l'image de l'homme fort, l'homme à poigne, le Daily Mail titrait Boris Johnson ou Boris, je sais plus, retire les gants. Donc ça, c'est une image qu'il aime bien entretenir. Donc j'ai plus l'impression que ses velléités apparente de négociations et ses efforts infructueux, c'est plutôt à destination de l'électorat.
Et Christian Lequen, du côté des Européens, qu'est-ce qu'on est prêt à lâcher? Ce qui pose problème, on le sait, c'est ce fameux backstop, vous l'avez dit, le filet de sécurité qui finalement provoquerait le retour d'une frontière entre les deux Irlandes. C'est le problème. Est-ce qu'on est prêt à faire des concessions du côté européen?
On est convaincu par des mesures techniques qui puisse, disons, remplacer le backstop. Mais pour l'instant, les propositions alternatives qui ont été mises sur la table par la délégation britannique sont d'une telle généralité que sur le plan technique, ça ne tient pas la route. Donc, on s'expose à toutes les fraudes, on s'expose... Et puis, surtout, on crée un précédent. On crée un précédent qui est d'une dérogation aux règles du marché intérieur. C'est ce que les Britanniques rêverait d'avoir, bien entendu. Mais je ne crois pas qu'on puisse céder si on n'est pas convaincu, justement, que les mesures alternatives puissent fonctionner. Or, la grande erreur britannique aussi, c'est que s'ils avaient envie de proposer des mesures alternatives, il fallait le faire pendant la négociation. Il fallait pas sortir ça le 18 juillet, vous voyez ce que je veux dire.
Parce que je crois qu'aujourd'hui, maintenant, les Européens ont bien compris que le no deal, c'était tout à fait une option sérieuse et même maintenant très probable. Mais est-ce qu'on est prêt?
Alors, tout le monde... vous savez, le no deal, les conséquences économiques, ça sera d'abord terrible pour la Grande-Bretagne. Hein, c'est d'abord la Grande-Bretagne.
Ensuite, c'est nous. Ensuite, c'est les Français.
Non.
Ah bon
ensuite, ce sont les Néerlandais, très clairement, si vous voulez, si on pense en termes de flux commerciaux au quotidien. Les Danois. Danois sont très bien sûr les Irlandais. Ça, je laisse de côté cet exemple. Après, nous, on arrive derrière. Effectivement, on a un surplus commercial et on a quelques secteurs qui vont être impactés, les pêches maritimes, le transport routier, le cabotage, notamment transmanche, et puis éventuellement les exportations de fruits et légumes et de produits laitiers. Mais on peut tout à fait survivre, vous savez, du côté français. Voilà.
Ouais, pour moi, c'est aussi, vraiment. Hein.
C'est C'est vraiment les Britanniques qui vont souffrir. C'est les Britanniques qui vont souffrir.
Ils survivront aussi. Emmanuel Avril, il y a encore un point sur lequel je voudrais vous entendre qu'on n'a pas encore exploré. Puis ensuite, on accueillera Mélanie Chalandon pour renouer avec notre partenariat avec Cartooning for Peace. Et on va décrypter un dessin de presse, évidemment, qui concerne notre sujet du jour. Mais le scénario de la motion de défiance. Est-ce qu'il est possible, envisageable? C'est évidemment ce que cherche à faire Jeremy Corbyn. Il voudrait bien, même peut-être avant le 9 septembre, enclencher cette motion de défense. Est-ce que ça, c'est un scénario plausible?
Oui, c'est en train de s'organiser, donc c'est tout à fait plausible.
Il y a peu de temps, là. Hein.
Il y a peu de temps, mais il prévoit mettre ça en place dès le 3, ou le 4, enfin, dès l'ouverture de la session.
Donc, ça veut dire que la majorité qu'on évoquait tout à l'heure, très courte, d'une voix rappelée Marc Seymour, en réalité, n'existe plus aujourd'hui du côté de Boris Johnson.
Disons que la majorité... Non, en fait,
c'est-à-dire
Non, c'est-à-dire que plus les heures passent, plus on voit des figures conservatrices dire nous, on s'associera avec l'opposition. Enfin, c'est-à-dire qu'on va vraiment une recomposition.
Aussi clairement que ça, votera pour la défiance. Philippe Hammond, par exemple, qui est l'un de ceux-là, n'a pas dit qu'il voterait pour une motion de défiance. Il l'a pas dit ouvertement.
Ça veut quand même dire ça.
Je sais pas.
Il me semble. Enfin, moi, je le comprends.
Juste une question technique. À Westminster, on vote à bulletin secret ou...
Pas du tout. Non. On vote dans les.
Donc on doit assumer.
On doit absolument assumer. Absolument. Oui.
Christian Lequen.
C'est compliqué cette histoire parce que.
Mais c'est ça qui est bon.
Il y a intéressant. Il y a deux écoles. Hein. Il y a un certain nombre de commentateurs à Londres qui disent aussi oui, mais le réflexe du vieux parti conservateur va se réveiller au dernier moment et finalement ils vont soutenir Boris même s'ils sont pas d'accord, etc. Donc on ne sait pas. On ne sait pas en fait.
En fait, il faut. Est-ce que l'enjeu du Brexit va prendre le pas sur toutes les divisions partisanes traditionnelles? Et donc, on va peut-être être à un moment charnière, peut-être, ou peut-être pas, où finalement, la polarisation, elle se fait autour de cet enjeu, pour la première fois, vraiment.
Au point d'avoir, pourquoi pas, un gouvernement d'union nationale, ou je dis une folie?
C'est un petit peu ça, la coalition qui est en train de se former. Alors là, c'est plutôt des partis, évidemment, de gauche, mais bon, les libéraux-démocrates... quasiment un parti en jeu unique en ce moment.
Et puis les députés de la Labour actuellement sont très en décalage par rapport à Corbyn. La majorité d'entre eux sont extrêmement durs, David Corbyn est pro-européen.
Il y a quand même eu des défections de conservateurs avant l'été.
C'est un des problèmes de la majorité en faveur de la motion de défiance, c'est la personnalité de Corbyn quand même. On sent que du côté des Lib Dems, il y a eu des déclarations d'ailleurs de Madame Swinson, la nouvelle leader du Parti libéral-démocrate. On n'a pas envie d'ouvrir quand même un boulevard à monsieur Corbyn. Mmh. Et en même temps...
Les sondages est quand même assez minable. Il est très, très, très loin derrière.
Exactement. Et en même temps, on aimerait bien s'opposer au Brexit. Donc voilà.
Jeremy Corbyn est le meilleur atout de Boris Johnson dans cette affaire, en fait.
Peut-être, mais d'une certaine façon, il devient...
C'est même sa seule chance.
Il devient même tellement... Enfin, Boris Johnson, en devenant de plus en plus toxique, il est en train de détoxifier un peu Jeremy Corbyn qui fait presque figure de modéré et démocrate en ce moment.
Allez, place à notre partenariat donc avec Cartooning for Peace, cette association de caricaturistes du monde entier. Le vendredi, on sélectionne un dessin en fonction évidemment de notre sujet du jour. C'est notre bulle cartooning du vendredi.
Il fait le clown.
Mais on a été créé pour faire rire les gens, mon vieux.
Assis.
Bonjour Mélanie Chalandon.
Bonjour Florian, bonjour à tous.
Alors, un dessin qui pourrait s'intituler « L'enlèvement de la démocratie », pourquoi pas ?
Eh bien oui, puisque c'est une véritable scène de séquestration qui se déroule sous nos yeux, celui d'une immense statue de marbre que deux individus sont en train de ligoter fermement à l'aide d'une corde. La statue représente une femme aux allures de déesse athénienne dans le pur style grec ancien. Il s'agit non pas d'une personne, mais d'une allégorie, celle de la démocratie. « Democracy » s'est inscrit sur son socle. Alors dire qu'elle se retrouve pieds et poings liés serait encore faible. Non, elle est littéralement emmaillotée. On n'aperçoit plus que son visage et la pointe de ses pieds. Comme si ses ravisseurs craignaient qu'elle ne leur échappe. On les voit tenant chacun fermement une extrémité de la corde sur laquelle ils tirent en tournant autour de leur captive. Je ne fais pas durer le suspense plus longtemps. Il s'agit d'un côté du Premier ministre Boris Johnson, de l'autre Sa Majesté la Reine Elisabeth II. Un bien drôle de couple, lui de dos, la silhouette aux larges épaules et la tignasse ébouriffée. Elle, petite dame bien frêle, manteau et chapeau assorti comme il se doit. La caricature est signée Antonio Rodriguez, un dessinateur mexicain. Elle est parue hier sur la plateforme Cartooning for Peace. Et ce qu'il y a d'intéressant dans ce dessin, eh bien, c'est qu'il place la reine et le premier ministre sur un même niveau de responsabilité dans ce rapt. With a little help of my queen, c'est le vrai titre de cette caricature, avec un coup de main de ma reine. La reine n'est pas présentée comme la victime des manœuvres du chef des conservateurs. Elle est tout aussi appliquée et déterminée que lui à ligoter leurs prisonnières, comme si tous deux, le politicien frondeur et la monarque éternelle, étaient liés contre un vieil ennemi commun qu'ils tiendraient enfin entre leurs mains. Pour une partie de l'opinion britannique, la monarchie se serait en effet compromise en acceptant la demande de Boris Johnson de suspendre le Parlement. C'est en tout cas ce que dénonce ce dessin, bien qu'il nous vienne du Mexique. Alors la reine aurait-elle pu, aurait-elle dû refuser de signer? Avait-elle le choix ou bien a-t-elle été prise au piège? Le débat ne fait que commencer. En attendant, le drapeau de l'Union Jack flotte toujours sur le royaume et en arrière-plan de ce dessin. Une union dont la reine demeure encore l'une des garantes, mais que chaque nouvel épisode du Brexit fragilise un peu plus.
Merci beaucoup Mélanie Chalandon pour ce dessin qu'on va mettre évidemment sur les réseaux sociaux et notamment sur le fil Twitter de Culture Monde. Rosalie Suc va le faire tout de suite, comme ça les auditeurs vont la voir. Réaction peut-être Christian Lequen, Emmanuel Lavril. C'est vrai qu'on met toujours la neutralité de la reine en avant. Et là, sur ce dessin, elle se fait complice justement de la manœuvre antidémocratique.
C'est une vision mexicaine. Disons que c'est une vision un peu mexicaine de la démocratie britannique.
Emmanuel Avril. C'est un peu injuste, moi je trouve.
Alors,
moi ce que je dirais,
Emmanuel Avril.
Ce que ça montre, alors bon, après on peut parler du. On voit quand même deux individus qui ne sont pas démocratiquement élus, en fait.
C'est pas faux.
Voilà, donc ça, c'est pour ça aussi qu'ils sont sur le même plan. Hein. Un chef d'État pas élu, donc c'est vrai que ça. Pose vraiment la question de la légitimité de cette institution au XXIe siècle.
Christian Lequen, c'est la républicaine qui a parlé.
Oui, alors on va penser que je suis monarchiste. Pas le cas. Non, je pense que c'est un peu dur pour la reine, parce que la reine, finalement, quelle que soit la décision du gouvernement, elle la transmet. Vous voyez, on n'a pas d'exemple d'une reine, enfin Elisabeth depuis 1953 maintenant, qui soit allée contre une position du gouvernement. Elle porte, si vous voulez, formellement la position du gouvernement, de même que le discours de la reine, elle ne fait que lire les priorités qui ont été établies par la majorité, par le Premier ministre. Ouais. Donc, effectivement, c'est un peu une vision mexicaine. Une vision un peu dure, disons, du rôle de la reine. J'ajoute qu'on ne sait absolument pas comment la reine se positionne par rapport à...
Je
mets au défi quiconque de trouver une déclaration de la reine.
Elle n'a pas le droit. Soit en fait,
la couleur de sa robe et de son chapeau.
On en est à interpréter la couleur des robes et des chapeaux qu'elle peut. Alors quand c'est du bleu, on dit c'est pour l'Europe. Mais de fait, pour regarder les choses crûment, si elle avait refusé dans l'absolu, alors, d'abord c'était compliqué parce que effectivement il y avait déjà eu des suspensions pour 15 jours. Là on était à 5 semaines, mais compte tenu des 3 semaines où il y a les congrès des partis, bon, on est dans le quantitatif, pas dans le qualitatif. Et ça aurait été créer une crise constitutionnelle, toujours entre guillemets, autrement plus grave, c'est-à-dire une reine, donc un monarque, bon, refusant ce que propose un Premier ministre, je crois que c'était sans précédent depuis Charles Ier, non, celui à qui on a coupé la tête, avec Cromwell. Enfin, c'était quand même du jamais vu dans le système britannique. Donc il faut quand même, là-dessus, un peu modérer les choses.
Cela dit, il y a des situations de confusion extrême qui pourraient réactiver en fait les pouvoirs du monarque. Hein, c'est-à-dire que en temps normal, en effet, c'est un pouvoir purement symbolique. Elle a le droit d'être consultée. Elle donne des conseils quand même, mais simplement, c'est pas public. Personne ne sait ce qui se dit. Mais on peut imaginer des situations où, par exemple, aucune majorité n'émerge à la Chambre des communes. Là, c'est le monarque qui doit choisir la personne la plus apte à endosser le rôle de Premier ministre. Donc, on peut imaginer que déjà, elle est un petit peu, voilà, mouillé dans cette histoire, sans doute vraiment à son corps défendant. On peut imaginer que les rebondissements de la semaine prochaine conduisent à des...
Sans compter que les risques sont grands, parce que vous le disiez tout à l'heure, la question de l'Écosse et de l'Irlande remettent vraiment fondamentalement en cause l'avenir du Royaume-Uni, et que par conséquent, elle pourrait très bien disparaître en queue de comète de ce Brexit. Donc là, il y a véritablement un enjeu. Est-ce que vous pensez, Christian Lequesne, que ce Brexit va finalement remettre en question l'ensemble du modèle britannique tel qu'il existe aujourd'hui ? C'est une évidence, ça ?
Quand vous dites l'ensemble du modèle britannique, vous pensez du système politique ou
absolument,
du système
politique.
On voit en tout cas un certain nombre de gens à Londres et en Grande-Bretagne qui aujourd'hui critiquent le fait, par exemple, qu'il n'y ait pas de constitution écrite, qu'il n'y ait pas véritablement d'article qui règle les procédures. Vous savez, tout est ad hoc. Il faut tout discuter au Parlement et puis il y a une loi, voilà. Alors que vous prenez le système français ou d'autres systèmes, bon, le référendum c'est organisé par un article de la Constitution. Donc ça, oui, la rationalisation peut-être un peu des procédures, mais une fois que le Brexit sera passé, est-ce qu'on relancera ça ?
On va peut-être reparler un jour du mode de scrutin.
J'en suis pas sûr, Emmanuel Avril. Ouais.
Le mode de scrutin, c'est un sujet qui a été enterré en 2011, beaucoup pensent qu'il devrait pas être, il devrait être déterré, parce que c'est quand même une des causes principales de l'immobilisme qu'on observe qui est en partie responsable de l'impasse qu'on observe sur le Brexit depuis tout le mandat de Theresa May.
Question tout à fait technique. Si le Royaume-Uni se défait, il n'y a plus de Royaume-Uni, il y a encore une reine, enfin il y a encore une monarchie, c'est une monarchie britannique ou une monarchie d'Angleterre ?
Ah non, c'est une monarchie britannique.
Bien entendu. Donc logiquement, exactement comme à la fin de l'Union soviétique supprime le poste de Gorbatchev, on peut imaginer que...
Quelle relation l'Écosse indépendante voudra avoir avec la monarchie ? Ça sera une question.
Et ça posera des problèmes à un certain nombre de pays, dont le Canada, dont le chef d'État est formellement toujours la reine d'Angleterre, si on abolit la monarchie britannique.
Ça peut être un des modèles, mais on peut aussi avoir des républicains écossais qui disent on veut rompre tout lien avec la monarchie. Auquel cas, ça sera un vrai traumatisme pour la monarchie britannique. Parce que la monarchie britannique se pense vraiment comme représentant l'ensemble du territoire du Royaume-Uni, Irlande du Nord inclus.
Emmanuel Avril.
J'aime bien terminer sur une note un petit peu plus optimiste, mais vraiment en forçant les choses.
À la fin de la monarchie, c'est pas optimiste.
Non, mais peut-être.
Pour la républicaine que vous êtes.
Ça dépend de quel point de vue on se place, mais... quand il y a une situation de crise aussi aiguë, ça peut aussi constituer un moment démocratique. Par exemple, on peut se rendre compte que le référendum, c'est peut-être pas le meilleur moyen de consulter les citoyens, qu'il y a peut-être d'autres façons de régénérer un peu la démocratie représentative à travers des modes de consultation un peu plus délibératifs et participatifs. Where are your old soldiers with slashes and scars that never used drinking in no time of wars, nor shedding of blood in mad drunken jars? And is not old England grown new? Is not old England grown new?
Darren Heyman, choisi par Benjamin Hu ce matin. On mettra évidemment la référence sur la page de Culture Monde. Merci beaucoup à nos invités, Christian Lequesne, Emmanuel Avril. Je rappelle un ouvrage que vous avez coécrit avec Pauline Schnapper et qui vient de sortir cette semaine et qui est quand même bien utile pour éclairer ce qui se passe en ce moment. Où va le Royaume-Uni, le Brexit et après? C'est chez Odile Jacob. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci également Marc Sémon. On se retrouve vendredi prochain.
Absolument.